Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, les villes méditerranéennes sont-elles des cités à la dérive? C'est la question que posent avec curiosité les 27e rencontres Averroès qui se tiennent traditionnellement à Marseille en novembre. Mais cette année, la crise du coronavirus a bouleversé les plans des organisateurs et ces rencontres se tiennent en ce moment sur Internet sous forme de 5 podcasts disponibles chaque vendredi depuis le 8 janvier avec 19 des invités prévus initialement. Nous en parlons avec Thierry Fabre, le fondateur et directeur des rencontres Averroès. En seconde partie d'émission, notre rendez-vous du samedi avec la rue de presse régionale, Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Les villes ne sont rien d'autre que la forme du temps, disait volontiers Italo Calvino, qui nous a appris à deviner des villes invisibles, à architecturer nos songes dans des récits toujours recommencés, où Marco Polo raconte à Hua Han les cités improbables de son empire. Ce désir, cet élan, cette forme qui se dessine dans nos songes est à l'origine même de notre questionnement sur les cités à la dérive qui sont au cœur de cette 27e édition des Rencontres d'Averroès. Penser la Méditerranée des deux rives, franchir les frontières du savoir, passer d'un monde à un autre, relier ce qui semble être séparé, telle est la raison d'être de ces Rencontres d'Averroès.
Bonjour Thierry Fabre.
Éric Bataillon, bonjour.
Vous êtes fondateur et organisateur des Rencontres d'Averroès qui se tiennent en novembre à Marseille et cela depuis 1994. Malheureusement, cette année, la pandémie du coronavirus a eu raison de la 27e édition en présentiel. Et donc Thierry Fabre, vous avez trouvé une autre solution. Quelle est-elle ?
Écoutez, on a essayé d'inventer quelque chose et pas de faire de fausses rencontres lyophilisées et numériques qui ne donne pas toute la saveur, puisque dans rencontre d'Averroès, il y a rencontre, et donc c'est très important qu'il y ait des rencontres. Alors donc on a essayé de créer d'autres types de rencontres en inventant un podcast avec tous les intervenants des rencontres d'Averroès, plus les rencontres littéraires, ce qui fait 18 à 19 personnes interviewées, et on a fait comme ça une traversée sonore en 5 épisodes avec Ariel Koenig et Clément Lemarié qui l'a réalisé. Et donc voilà, puisque nous sommes à la radio, on a créé une forme sonore. Parce que vous savez, c'est beaucoup de travail de préparer les rencontres d'Averroès. C'est une grande manifestation publique. Il y a plus de 5000 personnes qui y assistent au théâtre de la Criée à Marseille chaque année. Et donc c'était un crève-cœur de se dire que voilà, rien ne pouvait avoir lieu puisque le théâtre était fermé. Et donc on a voilà, après une petite semaine de trou d'air et de déprime et de tristesse, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer, et Fabienne Pavia, qui est une des organisatrices, a dit mais on pourrait peut-être imaginer un podcast. Et à partir de là, quelque chose s'est enclenché et tout le monde a répondu présent. Et ça donne cette forme assez magnifique avec toute cette richesse des entretiens et puis aussi, je dirais, cette épaisseur sonore, cette mise en ambiance des villes, puisque la thématique, c'est les villes de la Méditerranée. On est dans quelque chose qui est assez radiophonique.
Oui, votre sujet cette année, la ville méditerranéenne. Le titre générique est néanmoins assez curieux, « Cités à la dérive ». Pourquoi avoir choisi ce titre qui n'augure rien de bon pour les villes en question ?
Non, d'abord parce que c'est le titre d'un grand livre de la littérature méditerranéenne, d'un écrivain grec d'Alexandrie, qui s'appelle Stratis Tyrkas, qui est un livre qui est d'ailleurs toujours disponible aux éditions du Seuil, et qui est un petit chef-d'œuvre, et qui raconte les villes méditerranéennes dans les années 40, entre Jérusalem, le Caire et Alexandrie, et les mouvements grecs d'opposition, entre les rivalités communistes et autres groupes politiques. Et cité à la dérive, il y a quand même un point d'interrogation, parce que il n'a pas échappé que la réalité politique, économique, pensez par exemple à Beyrouth et aux explosions du mois d'août de l'année dernière et de bien des villes qui sont aujourd'hui en difficulté. Et donc l'idée, c'était de se saisir de l'esprit de l'époque, mais pour le retourner et d'avoir aussi une sorte de poétique de la ville, et donc d'où l'idée de ces traversées urbaines, de cet questionnement de l'architecture, des formes urbaines, et puis de la rapport entre la cité et le politique, qui sont un peu les épisodes. Donc, cité à la dérive, c'est pas un plaidoyer pour le désastre, au contraire, c'est de prendre en compte que ces villes sont, d'abord, c'est des villes très ancrées dans l'histoire, elles viennent de loin, elles vont loin, mais certains nombres d'entre elles dérivent actuellement compte tenu des coups de boutoir politiques, économiques, voire des guerres qui peuvent les traverser.
Justement, lorsqu'on relit l'agenda initial des 27e rencontres, prévues en novembre 2020, en présentiel, on voit deux rencontres littéraires programmées sur les thèmes Marseille, cité à la dérive, et Beyrouth, cité à la dérive. Doit-on répondre oui dans les deux cas? Ce sont des villes à la dérive.
Pour Camille Amoun, qui a écrit un très beau texte sur Beyrouth juste après, vous direz oui, évidemment. Il traverse une longue rue de Beyrouth et il dit mais on peut voir toute l'histoire économique et quasi mafieuse de l'asservissement de Beyrouth et de la déliquescence de cette grande ville.
Lui fait et le lien avec la corruption.
Absolument. Bon, et quand même, l'histoire de l'explosion, elle est énorme et en même temps pas très claire. Il n'y a pas eu de commission d'enquête, il commence à sortir des choses diverses et variées. Donc, oui, on peut parler à tout le moins de dérive. Quant à Marseille, il y a eu quand même un choc. C'est les effondrements de la rue d'Aubagne qui ont été un énorme traumatisme à Marseille. Alors, c'est pas l'ampleur de l'explosion de Beyrouth, mais c'est quand même révélé plusieurs milliers de logements insalubres, 20 000 personnes déclarées des logements vacants, des déplacements de gens qui n'ont pas été... Voilà. Donc, oui, il y a un immense chantier à Marseille aussi, et les réalités urbaines de ces villes anciennes posent un certain nombre de problèmes. Mais il faut pas oublier que ces villes ont aussi de la sève, elles ont de l'énergie, elles ont... la volonté de vivre, et leur société est à la fois vive et inventive, elle sait se réinventer, et donc c'est aussi ça. L'idée de ce podcast des Rencontres d'Aveyron, c'est d'aller à l'écoute de ce qui se trame à nouveau dans ces cités-là.
L'un des podcasts, c'est justement sur les villes et leurs imaginaires. Les nations se définissent-elles à travers leurs villes phares? On peut penser par exemple à Jérusalem et Israël, ou au Caire avec l'Égypte.
Je pense que les villes ont une réalité. C'est vraiment l'invention de la cité. Quand il y a un des rendez-vous autour de la cité, le politique, c'est fondateur du politique. Les cités de la Méditerranée, les cités-États ont précédé les nations. Et donc, elles ont une mémoire encore plus longue. On pense à Constantinople, Istanbul, Byzance. C'est-à-dire, c'est une capitale d'empire depuis si longtemps. Elle précède l'Empire ottoman. Elle est allée au-delà de l'Empire ottoman. La construction de la nation turque a changé de capitale et a installé Ankara. Et aujourd'hui, on assiste à la réinvention depuis le début des années 90 d'Istanbul. Et donc, les villes ont la peau dure, si je puis dire. Elles ont une épaisseur historique et oui, un imaginaire. Qu'est-ce que c'est un imaginaire? C'est quelque chose qui invite à raconter des histoires. Et fait que, et ces villes-là, elles inspirent des récits et font qu'on s'y sent bien, on y trouve sa place. Et il y a quelque chose comme des circulations entre ces villes et cités de la Méditerranée au-delà de toutes les frontières. Donc, ça va bien au-delà des nations. C'est ni des nations ni des empires, mais des circulations entre des formes urbaines qui sont reliées entre elles. Et si un ensemble méditerranéen peut exister, il existe à travers ces villes et cités de la Méditerranée.
Peut-on dire que les cités, notamment méditerranéennes, sont les espaces de tous les excès, des excès politiques avec, on l'a vu, manifestations, voire révolutions, excès urbanistiques avec une architecture parfois débridée, et puis un excès démographique avec des métropoles qui deviennent des mégalopoles?
Il y a cette tension, je dirais, de la ville sans limite ou de la ville comme espace public. Vous soulignez le rôle des places, hein, la place Taksim, la place Tahrir, l'avenue Bourguiba et tout ce qui s'est joué dans les contestations et dans les révolutions arabes il y a exactement 10 ans, et ça reste là. C'est un lieu d'investissement de l'espace public qui est majeur. Et puis, on disait jadis, la ville rend libre. Il y a aussi cette dimension-là. Bien sûr qu'il y a des excès, par exemple un anthropologue de l'urbain qui est Franco Lacek, là, qui a beaucoup travaillé dans le monde entier et qui est aujourd'hui à Palerme, parle de la critique contre l'architecture et les star-architectes qui construisent des grands bâtiments un peu isolés du feu urbain. Mais il y a ce tissu vivant qui fait la ville et qui, je dirais, compense les excès, que ce soit de spéculatif ou de construction, un peu comme des verrues qui sont plantées dans ces villes-là. Je crois qu'il y a une énergie majeure qui se joue autour des villes, et de mettre en débat la question de l'architecture. C'est un des thèmes de ces podcasts qu'on a appelé d'ailleurs « Architecture à la dérive ». Et les architectes ont tout à fait conscience des enjeux de recomposition qui se jouent notamment à partir des contraintes climatiques et des changements des modes de vie qui sont en train de s'opérer. Et de ce point de vue-là, La ville méditerranéenne, comme le souligne très bien Pauline Marchetti ou Martin Robin, a beaucoup de ressources pour éviter cette démesure que l'on voit, par exemple, dans les villes chinoises ou dans des villes ou des mégapoles aussi considérables que Istanbul, qui, telle qu'elle se développe, n'est effectivement pas durable, comme le souligne le géographe Jean-François Pérouse. Mais il reste dans les interstices, des modes de vie qui sont très tenaces. Et quelque part, on le voit par exemple dans le centre de Marseille, on n'a jamais pu, quelles que soient les tentatives de gentrification, expulser la société populaire qui est là au cœur de Marseille et qui fait toute la sève de cette ville. Donc les villes méditerranéennes, elles sont peut-être à la dérive, mais elles sont loin d'être mortes. Et au contraire, elles ont une façon d'habiter le monde encore à nous raconter, à nous transmettre. Et c'est, je pense, que ce qui fait tout l'intérêt de ce parcours urbain à travers cette édition des Rencontres d'Aveyron.
Merci Thierry Fabre.
Merci à vous et bonne journée.
Les Rencontres d'Aveyron, créées et conçues par Thierry Fabre, sont produites par Des Livres comme des Idées. Elles reçoivent le soutien de la ville de Marseille, de la région et de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Sophia Action Culturelle et de la Maison des Écrivains et de la Littérature. En partenariat média avec France Média Monde, RFI, France 24, Monte Carlo Doualia, La Croix, Mediapart, La Marseillaise et Zibeline. En partenariat avec La Criée, Théâtre National de Marseille, Aix-Marseille Université, Sciences Po Aix, l'Académie d'Aix-Marseille, l'Institut Français d'Égypte, le Festival Strasbourg Méditerranée, la revue Topo et la librairie L'Odeur du Temps. Merci à Bachar Mahalife qui nous a permis d'utiliser sa musique pour le générique de ce podcast. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur le site rencontreaveyroes.com.
Nous prenons maintenant la direction de deux villes méditerranéennes emblématiques, Le Caire, où nous attend Alexandre Bouchanti. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Jérusalem, pour rejoindre Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour.
Avec vous, nous lisons les journaux de la semaine. Alexandre, de nombreux articles et analystes dans la presse arabe sur le futur des relations américano-iraniennes.
Oui, et plusieurs journaux illustrent leurs articles par un bombardier B-52 américain escorté par des chasseurs F-15 survolant le golfe arabo-persique. Une démonstration de force de la nouvelle administration Biden, soulignent les journaux, avant de se poser la question d'un éventuel retour des États-Unis dans l'accord nucléaire avec l'Iran. C'est ce que souhaite Téhéran, même si les Iraniens tiennent un discours intransigeant sur l'enrichissement d'uranium pour le moment. Une position visant à avoir une marge de manœuvre lors des négociations avec Washington. Une perspective qui préoccupe les pays du Golfe qui perçoivent l'Iran comme une menace extérieure directe. Une menace intérieure aussi, souligne des analystes qui rappellent qu'une bonne partie des habitants arabes du Golfe sont des chiites qui pourraient être travaillés par les ayatollahs de la République islamique.
Michel Paul, dans vos journaux, au sujet des relations entre Israël et l'Iran, des propos qui font beaucoup de bruit. Israël préparerait des plans d'attaque des installations nucléaires iraniennes.
Éric, c'est un message double du chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Aviv Kochavi, qui proclame que le retour des États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien serait une mauvaise chose. Et il précise, pour être tout à fait clair, Tsahal prépare des plans d'attaque. Les commentateurs sont unanimes, ce message est adressé à la classe dirigeante iranienne, mais aussi à la nouvelle administration américaine. Israël s'apprête-t-il à passer à l'attaque contre les installations nucléaires en Iran, demande le quotidien Maariv. Pour Yedioth Aharonot, il est clair que le commandant en chef de Tsahal joue désormais le jeu du premier ministre Netanyahou. Si on veut être cynique, écrit la correspondante diplomatique du journal, on peut aisément comprendre quel était l'enjeu ? Un budget de milliards de shekels pour l'armée israélienne pour la préparation d'une option offensive pour régler une fois pour toutes le dossier nucléaire iranien. Et très critique, Haaretz, le quotidien d'opposition, affirme que le discours du militaire numéro un en Israël a jeté un certain embarras au sein de l'établissement sécuritaire israélien. Le journal propose que le chef du gouvernement et le ministre de la Défense remettent tous deux le général à sa place.
Prolongement du confinement et élections législatives. Michel, vous faites le lien entre les deux sujets.
Coronavirus et politique intérieure sont liés, et au moins jusqu'aux élections du 23 mars prochain, et probablement après également. Le gouvernement israélien n'arrive pas à se mettre d'accord sur la poursuite du troisième confinement, avec un taux de contamination toujours très élevé, et malgré 3 millions d'Israéliens vaccinés, soit un tiers de la population, les responsables sanitaires n'arrivent pas à enrayer l'épidémie. Le prochain défi, titre Israel Hayom, le journal le plus lu en Israël, éviter les rassemblements à l'occasion de la fête de Pourim, le carnaval juif. Pour Maariv, on assiste à un véritable duel politique entre Netanyahou et son partenaire adversaire, Benny Gantz, sur le compte de la santé publique. Le journal publie, comme toutes les semaines, un sondage qui montre la montée en force du Likoud, le parti de Netanyahou. À 52 jours des élections, un commentateur le souligne, la gauche s'effondre. Et de son côté, Haaretz indique que le centre-gauche a tout juste une semaine pour se ressaisir avant le dépôt officiel des listes électorales.
Alexandre, une large couverture des tensions politiques en Tunisie dans vos journaux.
Oui, et de nombreux journaux titrent « Climat empoisonné en Tunisie », une référence à une lettre adressée au président Kais Saïd, contenant une substance empoisonnée, selon un communiqué officiel, mais que conteste le parti islamiste An-Nahda, qui parle de mise en scène. Les relations entre le président et le nouveau gouvernement tunisien, qui a la bénédiction d'An-Nahda, sont tendues. La présidence contestant la constitutionnalité des nouvelles nominations, selon la presse. L'occasion aussi pour des éditorialistes de revenir sur le 10e anniversaire des soulèvements baptisés « Printemps arabe » par les médias occidentaux. Et pour la plupart des commentateurs, ce printemps est depuis longtemps devenu hiver, même pour la Tunisie, qui semblait être le seul pays ayant réussi une transition démocratique.
Et puis un reportage met l'accent, Alexandre, sur l'explosion du prix des voitures d'occasion en Égypte.
Oui, et selon le journal Ashourouk, cette augmentation des prix est due au fait que le gouvernement a annoncé un projet visant à subventionner les propriétaires de vieilles voitures, plus vieilles que 20 ans, afin d'envoyer le véhicule à la casse et le remplacer par un nouveau fonctionnant au gaz. Un projet qui risque de se heurter au coût des subventions du fait de la résurrection de véhicules qui étaient pratiquement à la casse, mais il y a aussi un autre problème, celui du coût de l'introduction du gaz dans toutes les stations-service. Depuis les grandes découvertes de champs gaziers en Méditerranée orientale, l'Égypte veut réduire ses importations pétrolières en substituant le gaz à l'essence et au diesel.
Michel Paul, une question à prendre au second degré. Le Mossad aurait-il ses entrées à Hollywood ?
Avner Avram n'en est pas à son coup d'essai. Pendant près de 30 ans, il a travaillé pour la centrale de renseignement israélienne, le Mossad donc, et il a déjà monté un musée de l'espionnage. Mais cette fois, il met sur pied Spy Legends, une agence chargée de la formation des équipes de cinéma pour tout ce qui touche de près ou de loin aux opérations spéciales et aux affaires d'espionnage. Et comme tout bon officier traitant, il a recruté d'anciens agents, des collègues du Mossad, mais aussi du Shin Bet, le service de contre-espionnage, et d'autres organisations secrètes en Israël et ailleurs dans le monde, notamment la CIA. Avram a gardé de son long passage dans les services spéciaux la manie du secret. Pas question pour lui de révéler quelles sont les productions qui ont eu recours à ces services. Certains films sont déjà dans la boîte, d'autres sont en cours de production. Mais dans tous les cas, tous les employés, souligne-t-il, doivent signer des accords de confidentialité.
Et enfin, quelles images avez-vous sélectionnées cette semaine, Michel ?
Eh bien, ce sont des photos des chasseurs-bombardiers F-35, les avions les plus sophistiqués, probablement à l'heure actuelle. L'administration Biden vient de geler leur vente aux Émirats Arabes Unis, une des dernières décisions de Donald Trump. La transaction faisait partie à part entière des accords d'Abraham, la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes.
Sujet à suivre. Merci Michel, merci Alexandre. Et avant de remercier Mathias Gulchani pour la réalisation de ce nouveau numéro d'Orient Hebdo, sachez que demain, Guilhem Delteil, ancien correspondant de RFI à Jérusalem, nous donnera le portrait de l'artiste et activiste palestinien Bachar Mourad. Une émission très musicale. À demain, prenez soin de vous.
Religion du monde, Geneviève Delrue.